podcast.com. Essaye ça.
C'est bizarre, hein, parce qu'on est en train de parler de Phyrexia ces temps-ci, puis on vient de se taper une rétrospective Jeff Filion sur Douteux TV. Bienvenue tout le monde à ce nouveau podcast Terrain Basique, un nouvel épisode. Mon nom est Tommy Godette et on est quatre pour vous présenter le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering. On va y aller dans l'ordre. Je lance des scènes au hasard. Emmanuel, comment ça va?
Je suis là. Fais attention avec tes scènes, ça fait mal.
Ça fait mal.
Ça pince.
Toujours fidèle au poste pour nous parler de Phyrexien. Toi, t'as joué, hein? T'es allé faire deux drafts, je pense.
J'ai essayé d'aller faire un pré-release, mais malheureusement, depuis Dominaria United, puisque la pandémie est terminée et que Magic est mort, le LGS était sold out, fait que j'ai pas pu avoir de place. J'aurais pu revenir à 11h, mais là, je suis tanné. Fait que je me suis pris deux kits, puis je me suis fait un petit pré-release privé en brunchant avec un ami là, dimanche.
Oh, c'est cute ça, j'aurais mais ça être là.
Fait qu'on s'est fait un deck chaque là, avec notre boîte. On a joué
6-7
games. Là. C'était belle fun, on a eu du plaisir. J'ai eu un Mishra Special Art. Le rare, là, pas le mythique. Là, celui qui donne honneur à toutes tes créatures là, pour un colorless, un noir, un rouge. Là, à tous tes artefacts dans ton graveyard. C'est excellent,
un autre, c'est un de mes mots préférés. Ça donne haste à ton monstre, puis j'aime ça, haste. Et Jonathan Gauthier aussi, salut Joe.
Salut, si vous me permettez, on va commencer par le soundtrack.
D'habitude, c'est par là qu'on passe, hein. On dit qu'est-ce qu'on écoute en arrière ce soir?
Ce soir, on écoute Energy Breaker, qui est un JRPG, un spin-off de Lufia, puis un petit fait intéressant que moi j'aime bien, c'est le même character designer que Trigon.
Ok, quand même, pourquoi pas. Fait que voilà, vous avez ça en background, merci beaucoup pour ça mon Joe, on va pouvoir jaser du reste. Et le Sphinx, celui qui a monté le dossier, on va sûrement retourner dans du lore de Brothers War pour voir c'est quoi qui se trame de ce côté-là. Est-ce que Mishra, est-ce que Urza, les deux vont aller voir un médiateur, être capable de s'en sortir là? Parle au jeu, est-ce qu'on va passer par là, Jason?
Écoute, on va continuer ce soir la deuxième partie de l'histoire de la guerre entre Urza et Mishra, telle que nous est racontée par l'esprit de Teferi qui voyage dans le temps. Hein, c'est le thème du set Brothers War. Moi aussi, je suis allé au pré-release. Je suis allé avec mon fils au Multizone d'Elmer. On les salue. Il y avait pas mal de monde, comme Eman mentionne. Là, le vendredi soir, il y avait 40 joueurs pour le pre-release, puis moi je suis allé le samedi après-midi pour Two-Headed Giant avec mon gars. On a eu du fun. Ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de fun avec un set de seal là. Je sais pas pour vous autres les guys là, Jonathan, je sais que t'es allé faire deux pre-release aussi.
Je vais faire un pre-release en Two-Headed Giant, puis le feedback positif. Non, c'était les deux decks que je t'ai envoyés.
Ah, ok, c'est les deux decks. Ouais, parce que c'est on rappelle le Two-Headed Giant, c'est du 2 contre 2. Comment t'as trouvé ça?
J'ai passé une super belle journée. On a gagné 2-1, fait que ça c'était quand même intéressant. Puis, je pense qu'il y a un genre de consensus que le 7, il te pousse relativement facilement dans une direction qui fonctionne. Genre, t'es on commune, t'es commune.
Ouais, les archétypes sont clairs. Hein?
Sont clairs. Tes cartes, il n'y a pas beaucoup de cartes que tu fais comme non, ça sert à rien en limited. Il y en a certaines que tu fais comme non, touche pas à ça. Mais relativement, c'est clair. Tu as une vision de ce que tu veux faire. Puis en plus, mon collègue, Yannick, lui, ce qu'il voulait faire de son pre-release, c'est jouer des artefacts. Fait que mission accomplie.
Et voilà. Mais il y a l'air d'en avoir quand même pas mal.
Il y en a une quantité.
Fait que je pense que la dernière fois qu'on s'était laissé, Jason.
Attends un petit peu.
Toi et Tommy, là, t'es resté
chez moi. Il y a un rendez-vous chez le psy pour être capable de.
C'est pas de ça qu'on parle, là.
Eman, il veut parler. Vas-y, Eman.
Non, mais juste vous signaler, juste si vous êtes comme Andy, puis vous aviez désinstallé Arena, si ça vous tente de le réinstaller pour essayer le nouveau set, le set vient de sortir à l'heure jour d'enregistrement, le mardi 15. Ça vient de sortir sur Arena et je salue Wizards qui ont fait, il y a toujours leur Midweek Magic événement du mardi au jeudi et cette semaine, c'est un Phantom Sealed du nouveau set, fait que vous pouvez l'essayer pour gratos si vous voulez jouer avec les nouvelles cartes là, allez faire ça, puis pour chacune de vos trois premières victoires il y a un petit nanan là, un rare ou mythique card, puis un cosmétique là. Mais tu sais, si vous voulez juste essayer les nouvelles cartes là, c'est l'occasion de rêver pour ça. Puis ils ont sorti aussi des détails sur MagicCon Philadelphie. Si ça vous intéresse, les billets vont être en vente le 1er décembre. Si jamais vous voulez aller au prochain festival Magic, ils ont déjà adressé pas mal, pour utiliser l'anglicisme, les problèmes qu'il y avait eu, dont on a parlé là, à Las Vegas, l'espace, l'organisation des tournois, etc. Il en parle en long et en large sur le site si vous voulez aller lire ça pour vous rassurer ou faire de la merde, je m'embarque pas là-dedans. Mais à vous intéresser, là, les billets sont en vente le 1er décembre. Sinon, si vous voulez savoir comment... qu'est-ce qui est bon dans Brothers War? La fin de semaine passée, il y avait le MTG Summit, une autre convention de Magic organisée par Card Kingdom, si ma mémoire est bonne. Mais il faisait un pré-release de Brothers War et le gagnant du tournoi gagnait un Black Lotus. Qu'est-ce que ça prend pour gagner un Black Lotus? Je peux vous partager le deck. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait comme deck? Vous les gars, vous avez joué un peu, là.
C'était en limité?
C'était en limité, c'était un sealed.
The Brothers War?
Ouais.
Soldier Mono White.
Non, mais c'était un deck aggro, effectivement. C'était du blanc-vert aggro. Tu vois que c'est un paquet de two drops. Beaucoup de. Surtout, pas de removal, mais des combat tricks. Fait que ça
ouais, ça ressemble à.
Ça sortait beaucoup, là. On voit qu'il y a comme une rare qui est le Simeon Simulacrum. Sinon, là, c'est vraiment du value, puis des two drops, puis des combat tricks. Gaia's Gift, je vous le dis, c'est un high pick, là, ça, en limité. Là, c'est un colorless, un vert, ça donne un plus un counter sur telle créature, puis ça lui donne genre toutes les keywords, là, indestructible, hexproof, trample.
Bon combat trick. Le Argosian Pixie aussi, là, il va bien, là, 2-2 ouais. Pour 2. Tu ne peux pas être bloqué par les artefacts. Là. Il y a beaucoup d'artefacts dans le set.
Il y a beaucoup d'artefacts.
Fait, ça m'a surpris, le aggro. Comme nous, on avait bâti deux decks, là. Puis, c'est moi qui ai fait le deck de mon fils, c'était vert, blanc et gros, puis ça allait vraiment bien.
Ben, je pense que c'est un format qui se veut un peu plus lent.
Oui, vraiment.
Avec les gros artefacts, les Power Stones qui rentrent taper, puis tout ça. Fait que si tu réussis à avoir ta stratégie aggro bien sur des rails, là, je pense que c'est viable, puis on en a une preuve avec ce deck-là.
Tenez-vous là pour j'ai perdu.
Tenez-vous là pour dire si vous voulez une Black Lotus.
Voilà, l'appel est lancé.
C'est tout pour moi.
Ben voilà, ça veut dire qu'on peut retourner à l'histoire de Urza puis Michel pour le rendez-vous chez le conseiller scolaire là, puis ces affaires-là. On va sûrement aller voir.
Jason,
elle était morte. La conseillère. Let's go. Amen. Je veux du
lourd. Tout ça pour vous dire, je vous encourage à aller drafter dans vos Game Store, puis postez-nous vos photos de deck sur notre page Facebook ou dans notre Discord.
Sur Discord, on a un channel juste pour ça.
Ouais, le rack à deck sur Discord, il est fait pour ça. Est-ce que vous voyez le booster de Brothers War à l'écran?
Ouais, on le voit. Ouais.
Donc, pour ceux qui l'écoutent en podcast, vous avez aussi le tout le set en carte, là, il est dans la description du show. La dernière fois qu'on s'est laissé, hein, c'était... on se rappelle, c'était l'enfance de Urza et Mishra, les deux frères. il était sous l'égide là, d'un professeur qui s'appelait Tocassia, puis il faisait de l'archéologie pour découvrir des artefacts de l'ancienne civilisation des Tran. Et ils avaient découvert un Power Stone vraiment puissant qu'ils s'étaient battus pour, tu sais, comme ils s'étaient comme chicanés, ils l'avaient cassé en deux. Fait que Urza avait le Might Stone qui est rouge, qui est une énergie positive, et Mishra avait le Weak Stone qui est vert, qui est énergie négative. Et ouais, ils
si
savent...
j'aurais été fâché de me ramasser avec celui qui s'appelle le Weak Stone.
Ouais, hein? C'est l'underdog, c'est Mishra. Et que, dans le fond, les deux ont commencé à avoir la jalousie de convoiter la pierre de l'autre en sachant que s'ils réussissent à avoir les deux, ben c'est t'es en affaire, t'es en business. Fait que ça l'a dégénéré à partir de là et ils se sont battus dans un affrontement de bolt de magie créé par les deux pierres. Et ça l'a tué Tocassia.
Eh oui!
Mishra a été obligé de se pousser, hein. Ça c'était la carte Overwhelming Remorse.
Ça l'a tué la conseillère scolaire, esti.
J'aimerais porter votre attention que Urza et Mishra ne sont pas des magiciens. Ils cassent pas des spells. C'est à aucun moment là sur les cartes là, c'est des artificiers et ils ont aucune façon là, comme ils summonent pas de la mana. C'est pour ça que ça leur prend des Power Stones. C'est ça la base du set là. Tu crées des Power Stones pour casser des gros robots. C'est Urza, il va seulement devenir un spellcaster à la fin de l'histoire quand il vient un Planeswalker, mais pas avant. C'est très important de mentionner ça parce qu'on va voir une faction, probablement dans le prochain épisode, qui eux sont les sages de l'Atnam, qui eux ont découvert la magie des cinq couleurs. Mais Urza et Mishra, à la base, c'est des artificiers, puis dans le temps que l'histoire avait été conçue, les artefacts, c'est tout le temps monocouleur. C'est plus comme ça maintenant, mais ils ont quand même gardé cet esprit-là. Là. Fait que Mishra, il se pousse dans le désert et il va errer pendant des années, genre, dans le fond, comme sa jeune vingtaine. Il va être un genre de vagabond dans le désert. Il va se mêler à la tribu. Tu sais, j'avais parlé des Faladji, qui étaient les nomades du désert, du désert de Faladji. Et il va essayer, tu sais, d'en apprendre un peu plus là, par lui-même sur les anciens Tran. On voit la carte Weakstone Subjugation, là, où ce qu'on voit un jeune Mishra qui a stopper en fait un genre de vieux robot Tran. Hein, que vous voyez les robots qui ont des jointures en rond avec de la lumière autour, là, ça c'est des anciens Tran. Ils ont tout le temps gardé ce concept-là dans le design. Weakstone Subjugation, ça c'est vraiment bon. Là, j'en avais 2-3 dans mon deck en fin de semaine, là, puis c'est high pick, je trouve. Un bleu, tu enchantes un artefact ou une créature. Tu peux payer 3 pour le taper. Et dans tous les cas, ça fait que le permanent que t'as enchanté, que ton Wheatstone de subjugation, n'en tape plus. Je sais pas pour vous, là, toi et Man, là, mais moi je trouve ça vraiment bon. C'est tout le temps bon.
C'est cheap. C'est du bon. C'est du removal dans le jeu. Oui, ça coûte pas cher. Parfait. Puis un petit peu de deux modes, selon comment tu veux l'utiliser. Fait que,
ouais, c'est ça. Si t'as assez de mana, tu peux le ramper, puis là, tu tapes le truc. Là, mais généralement,
le fait que tu puisses l'utiliser sur un artefact qui n'est pas une créature,
ouais,
tu peux, c'est excellent. Là, fait, parce qu'il y en a beaucoup, là, justement, limité, surtout dans les rétro-artefacts. Là, des artefacts.
Shut down un artefact.
Ouais, c'est vraiment set, bon. Dans le set précédent, je pense que c'était genre 3 Stun Counter, puis c'était bon. Fait que celui-là, que c'est illimité.
Non, ça fait la job. Moi je trouve que je suis tout à content de jouer cette carte-là en draft. Là. C'est rare que je suis pas content d'avoir. Je considère ça comme un removal dans une certaine mesure. Là. Ouais. Mais bon, tu sais, fait que Mishra, ce qu'il fait, c'est qu'il retourne en fait dans la cave de Koilos, hein, qui était le où ce qu'on veut découvrir le Mindstone et le Wheatstone. Il va essayer d'en apprendre un peu plus sur les fameux trams. La carte Dreams of Steel and Oil. Puis ça, je vais vouloir ton avis là-dessus, Jonathan, tantôt, parce que le art de Jeremy Wilson est awesome.
Ouais.
Ça, dans le fond, c'est le duresque du set. Là, c'est pour un noir, un sorcery. Ton adversaire monte sa main, tu prends un artefact ou une créature. Et ensuite, tu check aussi dans son graveyard pour une autre artefact et une autre créature et tu exiles ces cartes-là. Donc, pour un noir, tu te débarrasses de deux cartes. C'est vraiment cool comme spell, mais surtout ce que ça représente, c'est les cauchemars de Mishra. C'est que Mishra, en fouillant dans la cave de Koilos, ils ont tout le temps comme gardé ça un peu ambigu parce que c'est le punch à la fin de la storyline, mais c'est que Mishra se met à dealer avec des démons phyrexiens, en fait. À travers ses rêves, à travers ses contacts qu'il y a avec les artefacts Tran. Lis-nous le fairy text, Tommy.
Mishra's nightmares of Phyrexia rang with screams of agony and groans of twisted metal. The sound stayed with him long after he awoke. Ça veut dire les cauchemars de Mishra à propos de la Phyrexie. Ça sonnait dans sa tête avec de l'agonie et des grincements de métal tout twisté. Et le son est resté dans sa tête longtemps après qu'il se réveille, comme si c'était plus qu'un cauchemar, comme si ça se passait pour vrai. Dans ses rengaines.
Les plus. Et on va remarquer le heart, là, c'est comme on voit la face à Mishra là, et oui. En arrière le gros symbole des Phyrexiens, le fire. Vas-y, Jonathan.
Ouais, ben, parce que vite comme ça, comme question, je dirais que le phi, c'est aussi le golden ratio. En étude de composition d'image, c'est à peu près un tiers. Puis si vous regardez. Je pense qu'il y a un effort conscient de Jeremy Wilson. C'est quelqu'un qui a des excellentes bases en composition d'image. Puis la quantité de place, si tu peux dire, OK, la face de Mishra est au un tiers à partir d'en bas.
Ah, ouais.
Le cercle orange est à l'intérieur du cercle rouge. Ces éléments noirs, c'est à peu près 30% par rapport aux éléments lumineux. C'est quelque chose que je sais pas qu'il le fait volontairement, mais considérant que c'est quelqu'un que dans son composition d'image utilise des règles d'infographie qui sont généralement classiques, le golden ratio est partout sur cette carte-là. Puis je trouve ça.
Ah, c'est cool.
C'est ce que j'ai à dire. Le seul truc qui me déplaît un peu, c'est que là, présentement, la carte que tu nous montres est en basse résolution. Puis, quelque chose que Jeremy Wilson aime faire, c'est il utilise des tons plats sans aucune texture, sauf sur la peau ou sur le métal. Fait que là, si ça serait en meilleure résolution, vous regarderez de votre côté. La peau, il a tendance à toujours mettre plus de shading, puis le restant, il est en ton plat.
Ah, ok, ouais. Ouais, ben.
Anyway, c'est pas
fait. Ouais, c'est cool, là. C'est pour ça que t'es sur le show, hein, Jonathan. Ben, j'aurais jamais vu le tiers, moi. On s'entend, quand je dis le faire, c'est le fameux symbole de Infect. Là,
un rond avec une barre dedans.
Ouais, le rond avec la barre dedans des Phyrexiens. Ouais. Je m'étais trompé la semaine passée de le monstre que Mishra trouvait, en fait. Là, j'avais dit que c'était le Phalagi Dragon Engine, mais j'ai rechecké les cartes, puis c'était pas ça pendant tout. C'est que bon, la carte Mishra Domination, ce qu'on voit qui fait sortir un genre de gros monstre en métal du sol. On voit aussi l'évolution, hein. C'est plus un petit gars là, sur la carte. Là. Tu vois, c'est rendu comme un jeune homme là, assez en forme et c'est ça la force de Mishra, c'est qu'il est capable de hisser ou fouiller et sortir des grosses affaires vraiment puissantes. Fait que c'est la carte de quand il est un adulte, c'est sa seconde carte légendaire dans le set, c'est le Mishra Tamer of Macfawa. Macfawa est le nom Phalagi qu'ils vont donner au monstre que Mishra va prendre le contrôle avec son Weakstone, qui est un vieux Dragon Engine Tran. Mishra Tamer of Phalagi, on voit le Dragon Engine en arrière de lui là, qui est comme tout en avec du feu à l'intérieur là.
Ouais, ça a pas l'air confortable.
Ouais, ça c'est pour 5, un 4-4 Human Artificer légendaire. Tous les permanents que tu contrôles ont Ward en sacrifiant un permanent, fait que tu peux comme tu sais, si l'autre il veut targeter tes trucs, faut qu'il sacrifie des permanents.
En commençant par Mishra aussi.
Ouais.
S'il veut se débarrasser de cette ward-là.
Et chaque artefact dans ton graveyard a unearth un colorless, un noir, un rouge. C'est-à-dire que tu peux, tu sais, c'est vraiment ça que Mishra il fait. Il se met à creuser le désert et à sortir tous les anciens artefacts Tran pour se bâtir une armée. J'aime vraiment cette carte-là. Toi, Eman, tu me dis que tu as joué avec en fin de semaine.
Ouais. Ben, c'est un. Il faut que tu.
C'est pas juste les créatures
du battlefield. Non, c'est tous les artefacts. Là. Moi, je jouais beaucoup de Sacrifice puis de Synergie de Sacrifice. Fait que j'avais comme un Mishra's Bubble, des petits artefacts cheap que tu peux sacrifier. Fait que tu peux les ramener de ton graveyard avec Unearth puis tes sacrifies. Fait que j'avais des créatures que je mettais des plus un counter quand je sacrifiais de quoi, toutes sortes d'affaires comme ça. Fait que il y avait pas mal de synergies puis de trucs à faire le fun dans le rouge et noir là, avec cette carte-là.
C'est quoi l'autre, l'artificier, que tu sacrifies un artefact, puis ton board au complet, il y a plus un d'attaque,
plus un menace. C'est le signpost uncommon de Rakdos dans le set, là. Puis, ben, ça te permet aussi de ramener tes gros artefacts que t'aurais self-mill, là, qui coûtent,
Ouais,
8, plus, 9, hein? 10, là, ça te permet de t'y ramener pour un tour pour seulement 3 de mana. Tu en as des gros 6-6 Trample.
Ça vaut la peine. Ça a l'air cool. J'ai remarqué les gens sont très portés dans ce set-là à aller vers le. Ben, c'était Seal, on verra si le draft c'est la même chose. Mais je pense que toi aussi, Jonathan, je pense que c'est ça que tu as joué. Noir et rouge, là, ça semble se tenir pas pire là, de sacrifier des affaires et de les ramener en Unearth.
Moi, j'étais.
Besoin de le taper en plus. Fait que t'as 6 mana, tu peux ramener 2 gros monstres.
Ouais. Ben, moi, j'étais sur le blanc-vert avec les ATB d'artefacts. Okay, mais mon collègue, c'est ouvert, je pense, comme 2 mythiques noirs. Puis, à partir de là, en plus, il y avait ce Mishra-là, plus le signpost. Fait que le deck s'est construit tout seul autour de ça. Puis, oui, ça fonctionnait bien. C'était pas nécessairement qu'on trouvait ça bon, c'est juste quand tu piges comme 2 minutes.
Ouais, c'est que ça donnait, là. Mais je pense que ça se tient. Là. Vous avez fait combien pour le fun?
Nous?
Ouais.
2 victoires, 1 défaite, puis on a perdu contre un soldier. Je pense que je suis pas tout seul dans cette situation-là, que le set est relativement large, il pousse vers du mid-range, on va dire.
Ouais, faut que tu ramp, là.
Puis la quantité de 1-1 qu'on avait, puis oui, il y a une carte dans le rouge qui fait comme un dégât à tout le board, c'est juste que...
T'appuies pas.
C'est pas si t'appuies pas, nous autres, c'était un set de 1, genre, c'était pas un 2 de 3, fait que t'as pas de sideboard. Si t'as pas de sideboard, il y a pas vraiment de token, tu auras pas beaucoup de squirrel dans ce set-là, fait que... Mais en tout cas, c'était un beaucoup de plaisir.
Parlant des signposts justement là, on va en parler un petit peu là, c'est comme le Phalagi Vanguard, hein. Vous allez voir toutes les cartes qui ont Phalagi dans leur nom, ça c'est la gang à Mishra, c'est au début de la guerre. En fait là, c'est le comme je dirais là, les 40 premières années. Hein. Au début, c'est des guerres médiévales classiques là, de soldats contre soldats avec des lances puis des boucliers. Ils sont faciles à spotter, les Phalagi, ils ont toutes des espèces de symboles en étoiles rouges sur leur chest puis leur casque. Si vous checkez leur artwork, là. Ouais. Puis le Phalagi Vanguard, là, c'est dans Uncommon, un 2 colorless, un rouge, un blanc pour un 2-3 first strike. Que chaque fois que lui ou une autre créature rentre sur ton battlefield, une target créature que tu as va gagner +2/+0
into the nether.
Fait que tu sais, ça t'incite à jouer large, dans le fond, d'avoir une créature qui rentre en jeu chaque tour.
Ah oui.
Puis là, peut-être t'attaques tout le temps.
Ça, c'est ça le flash pour pouvoir donner +2/+0 en instant.
Ben oui, ouais. Entre autres.
Il y a un 2 flyer avec flash là, qui est pas pire dans le blanc.
Lis-nous le flavor text, Tommy.
The burnished banner will show the warlord that the Suarti marches belong to the Phalagi. Ah ben ouais, la bannière brûlée va démontrer au chef de guerre que les marches Suarti appartiennent aux Phalagi. Bon, t'as une zone.
Bon, les marches Suarti, c'est la bordure du désert avec le royaume de Yotia que je vais parler dans 5 minutes. Quand vous voyez burnished banner, ça c'est l'armée d'Urza, c'est la bannière c'est brûlée. Burnished ou...
Burnished, ça veut...
C'est une peinte, là. Puis Warlord, c'est le roi de Yotia. On l'appelle le Warlord et éventuellement, ça va devenir Urza. Fait que, dans le fond, là, c'est qu'un début de la guerre, ça va être de se battre pour le contrôle des marches de Suadi. Donc, vous allez voir ces noms-là revenir dans les flavor text. Puis là, il y a plein de petites communes qui vont avec. Hein, tu sais, comme Phalagi Chain Dancer, qui est un 2-4 qui peut gagner Double Strike si tu payes 2. Arbalest Engineer, parce que t'as une autre des archétypes en rouge et vert, qui c'est aussi les Phalagi. Donc Arbalest Engineer, c'est un 2-2 Artificer. Encore là, il y a beaucoup d'Enter de Battlefield dans cette là, comme je vous avais dit. Là.
Ouais.
Fait que ça va entre autres avec les Unearth. Fait que tu vois, c'est à chaque fois que lui rentre sur le Battlefield, il peut faire un dégât à n'importe quel target ou mettre un counter +1/+1 sur une créature qui gagne Trample ou Ace ou créer un Power Stone. Ça, c'est pour ramper tes affaires dans le vert. Fait que c'est ça. Les Faladji, dans le fond, c'est l'armée de Mishra. Le Tomakul Honor Guard, hein, encore là. 3-1 avec Ward 2 dans le vert. Dans le Grand Désert, il y a une seule loi qui est plus forte que les autres. C'est l'eau appartient à tout le monde. T'sais, ils nous montrent un peu c'est comment leur civilisation est organisée. Mishra va prendre le contrôle de ce monde-là, notamment parce que le fait qu'il y a un gros Dragon Engine qui contrôle avec son Weak Stone.
Ça aide
beaucoup. C'est le Friction Dragon Engine, qui est le gros Friction Dragon 2-2 Double Strike pour 3, hein, ça fait que c'est pas cher. Et quand il rentre sur le battlefield de ton graveyard, tu peux discarter ta main pour piger 3 cartes et il y a Unearth 5. Ça, c'est la carte qui meld avec le Mishra qui devient vieux et non le Mishra Tamer of Macfawa. Donc, dans le fond, il prend le contrôle des Faladji. Il va rencontrer notamment le chef des Faladji, c'est Ajar Loyal Bodyguard, pour un 3-3 rouge et vert, que tu peux le sacrifier pour qu'une créature légendaire que tu contrôles gagne plus 1, plus 0. Toutes les créatures légendaires, ouais.
Parce que le deck de Bard Class avait besoin d'une autre carte pour l'aider.
Donc c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de cartes qui font référence aux Faladji. Comme vous voyez, Tomakul aussi. Tomakul, c'est la grosse ville des Faladji. C'est que Mishra va construire une ville dans le désert. Il va faire grossir ce qui était comme une ville de caravane en genre de grosse ville d'usine. Hein, c'est ces fameuses factories. Fait que il va y avoir beaucoup d'artificiers pour construire là, ces machines de guerre. Tomakul Scrapsmith, qui est un 2-1, que quand il rentre sur le battlefield, tu te milles de 3. Et tu peux placer un artefact que tu as millé comme ça dans ta main. Si tu le fais pas, tu donnes un plus 1 plus 1 counter sur Tomakul. On voit comment les archétypes se mélangent. Parce que tu vois, ça marche dans le deck noir et rouge de Unearth. Ça marche aussi dans le deck de vert et rouge. Et ça marche aussi dans le deck de rouge et blanc. C'est quand même cool. T'sais, ils ont fait une bonne job de synergie avec leur carte.
Ouais.
Et chacun des personnages légendaires, des personnages principaux, ont tout un command. Et les commands, ils ont encore poussé ça encore plus loin que ça l'était déjà. Le command est un dérivé des fameux charms. Hein. Les charms, ça avait commencé dans Mirage, qui est un
spell. Avec plein de pouvoirs différents.
Et tu choisis quel spell sur la carte ça fait. Les charms, c'est généralement, tu choisissais parmi 3. Éventuellement, quand ils ont fait les commands dans je pense que c'était dans Ken of Tarkir, c'était que dans 2 couleurs, puis tu pouvais choisir parmi 4 choix. Mais là, dans Brothers War, tu choisis 2. Non, c'est ça, les charmes, tu choisis 1 parmi 3 choix. Les commands, tu choisissais 2 parmi 3 choix. Et là, maintenant, c'est tu choisis 2 parmi 4 choix.
Damn.
Fait que le Mishra Command, tu choisis 2 choix qu'un target player discarte X cartes et tu vas piger ensuite une carte pour chacune qui a discarté. Ou soit que tu fais X dégâts à une target créature ou X dégâts à un Planeswalker, un genre de fireball pas pour les joueurs. Ou qu'une créature gagne plus 6, plus 0 et haste. On voit sur cette carte-là, on voit, tu sais, c'est tout le temps faire référence aux aspects importants des personnages. Dans le cas du Mishra Command, on voit le Dragon Engine en arrière-fond qui est tout en feu. Et il y a le Weak Stone dans la main. Et devant lui, on voit un genre d'ombre un peu, là. Je pense que c'est la silhouette de sa future apprentie Ashnod qui va le trahir à Thanos, l'apprenti de Urza.
Ça ressemble à ça.
Je pense que c'est ça, mais le heart est vraiment cool, il est comme semi-abstinent.
Toutes les 5 commandes, ouais, sont des hearts de Dominic Meyer qui a encore fait une crise de bonne job. Là. Il y a beaucoup de petits détails, la composition encore là.
Vas-y, super.
Je crois qu'il est rendu adulte, là. Il est rendu avec du poil.
Oui, non, mais tu sais, il vieillit. Là.
Ça, let's go.
Pendant tout ce que je viens de vous raconter là se passe, t'as Urza, lui aussi va grandir, hein? Lui aussi va avoir sa jeune vingtaine. Il se rend dans la ville de Krug, qui est la capitale du royaume de Yotia. Ça, c'était dans le vieux set Antiquities, là, le fameux amulette de Krug, qui était une carte de marde qui s'est fait devenir un des dégâts. J'ai de la misère avec mon micro.
Ouais, parle-y.
Ça disait, l'amulette de Krug dans Antiquity, ça disait que les premiers alliés que Urza a gagnés, c'était le peuple de Krug. Et que là, il leur avait fait une amulette là, pour sceller cette espèce de friendship-là. Et ils ont mis dans le set la reine Kayla Bin Krug. Kayla Bin Krug, c'est la princesse du royaume de Yosia. Elle est l'autre personnage vraiment important dans cette histoire-là. C'est elle qui va en fait mettre par écrit tout le storyline du Antiquities War. Qui, dans le fond, la raison pour qu'on sait que tout ça se passe avant que Teferi se met à reculer dans le temps, c'est parce qu'elle avait écrit un livre qui s'appelait The Antiquities War. Donc, sa carte dans le set, c'est Queen Kayla Bin Krug pour 3 dans rouge et blanc. Un 2-3. Tu peux payer 4 pour discarter toutes les cartes de ta main, puis tu pigeotas de cartes. Tu peux choisir un artefact ou une créature avec un mana de value de 1.
Ensuite, la même chose avec un mana value 2, ensuite un mana value 3. Tu peux les mettre sur le battlefield. C'est comme si ça te récompense pour genre jouer des cartes de mana value 3 et moins.
Ah ouais, c'est cool.
Imagine que tu as une de 1 drop, un 2 drop puis un 3 drop dans ta main. Tu discartes les 3, tu mets les 3 en jeu puis tu piges 3 cartes.
Ouais.
C'est le scénario parfait. Là.
Ouais. Je me trompe, mais je pense que la façon que l'histoire a été écrite, qu'ils l'ont publiée, c'est aussi elle qui écrit, qui a mis par écrit The Dark puis Ice Age.
Parce qu'elle ne survit pas jusqu'à là-bas. Okay. Elle ne voit pas le Ice Age, Kayla. Elle voit le début, là.
Ah, c'est ça, elle voit le début.
Mais ce qu'elle écrit, c'est la guerre des frères.
Ok.
C'est ça. Fait que Urza, il va se rendre à cette ville-là. Il devient un horloger, hein, parce qu'il est bon. On se rappelle, il est bon dans les artefacts, les affaires mécaniques avec des engrenages. Il devient un horloger et il prend sous son aile un fabricant de jouets qui s'appelle Thanos. Ça aussi, ça vient d'Antiquities. Donc, l'autre légendaire rare dans le set, c'est Thanos de Toy Maker. 3 colorless, un vert, un bleu. Pour un 3-5. À chaque fois que tu castes une beast ou un bird, tu peux le copier. Sauf que la copie est un artefact. Fait que dans le fond, c'est comme tu copies des animaux en machine. C'est ça qui fait Thanos. C'est un fabricant de jouets. Comme il dit dans le flavor text, ne me remercie pas, remercie la nature pour ces designs qui m'ont inspiré.
Oh, c'est beau.
C'est une carte de Commander, ça. Parce que dans le set, là, je vous le dis tout de suite, cherchez-les, les beasts, il y en a genre.
Ouais, c'est d'affaires de Commander, effectivement.
4 à Uncommon, puis il y a un bird dans toutes les sets.
Ouais. mais sinon, en commune, t'as Thanos Tinkering, où ce qu'on voit le jeune Thanos qui construit un genre de serpent mécanique. Ça, c'est un genre de. C'est pour 4, tu mets 2 counter +1/+1 sur un artefact ou une créature ou un land. Tu l'as dans le tap, et si c'était pas encore une créature, ça devient une créature. Ça dit pendant que son maître essayait de surpasser la nature, Thanos voulait capturer sa beauté. Fait que c'est Thanos qui va un peu inspirer Urza à faire des machines. Parce que lui faisait genre des petits jouets, là, tu sais, des copies d'animaux. Puis Urza, lui, il savait, tu sais, c'était un horloger, mais là, il se dit, je pourrais peut-être pousser mes talents un peu plus loin. Hein. Fait que t'avais dans Antiquity, c'était le Jalum Tome qui était. Éventuellement, il va se rendre compte que dans la bibliothèque du roi de Krug, il y a le Jalum Tome qui est un vieux bouquin qui date de l'époque des Tran, qui t'explique comment construire les artefacts, tu sais, comprendre les artefacts Tran. Et il va se rendre compte que le Warlord, hein, le roi du royaume, a fait un décret que celui qui serait capable de bouger une roche de jade pourrait marier la princesse. Tu l'avais dans le roman, là, t'as comme tous les hommes forts, hommes forts des régions viennent essayer de sauver la roche, ils réussissent pas. Fait que Urza, ce qu'il fait, c'est la carte Machine Over Matter, un colorless, un bleu. Il fait construire avec l'aide de Thanos un genre de gros robot qui soulève la grosse roche vraiment lourde. Ça, c'est un instant qui te coûte un de moins si t'as un artefact créature, hein, si t'as un gros robot avec toi, puis tu peux retourner un non-land permanent dans la main. Ça, j'ai fait. Ça m'a fait gagner des games en fin de semaine. C'est vraiment bon. Les end semaines, c'est tout le temps bon.
Ouais, c'est vrai.
Le flavor text, c'est ça que j'ai dit, là, ça dit le Warlord a
décrit. The Warlord decreed that only someone who could move the statue would be strong enough to marry the princess. So Urza moved it. Le chef de guerre a décrété que seule la personne capable de bouger la statue serait fort en masse pour marier la princesse. Donc Urza l'a bougé. C'est un petit peu la finale en quatre mots, hein, qui nous dit que Urza est capable aussi.
Urza est capable. Puis j'aime bien le riff, le nom de la carte, là, c'est, c'est un hommage dans Mind Over Matter, dans Exodus, que tu discartais des cartes pour en taper et taper des permanents. Donc c'était Mind Over Matter, puis là c'est Machine Over Matter. C'est plein de petits clins d'œil comme ça, vraiment cool. Fait qu'il va devenir, Urza va devenir ainsi, c'est sa deuxième carte légendaire, le Prince de Krug. Deux colorless, un blanc, un bleu pour un 2-3, Human Artificer. Toutes tes artefacts créatures ont +2/+2 et tu peux payer 6 pour créer un token qui est une copie d'un artefact que tu contrôles, excepté qu'en plus, c'est un Soldier 1-1 en plus de ses autres types. Le prince consort était heureux de laisser Yossia financer ses recherches extravagantes. Fait que Urza va devenir le boss de Krug et le problème avec ça, c'est que le royaume de Yossia sont en guerre avec les Falagi. Et qui est devenu le boss des Falagi?
C'est Mishra.
C'est Mishra. Fait qu'on s'entend, ça va faire un problème. Hein?
Ça brasse.
Ça va brasser, ça va brasser. Pendant ce temps-là, dans le désert, dans ses conquêtes, là, parce que Mishra, il va commencer comme à attaquer les royaumes autour, c'est là qu'il va recruter notamment Ashnod, Flèche Mécaniste. Ashnod, hein, il y avait plein de cartes qui s'appelaient Ashnod dans les années 90, mais là, ils l'ont mis en créature pour un noir, un 1-1, Human Artificer, Dead Touch. Quand elle attaque, tu peux sacrifier une créature pour créer un Power Stone, et tu peux payer 5 pour exiler une créature de ton graveyard pour créer un Zombie 3-3 Artifact Creature Token. Je trouve pas que c'est très bon. Il y a peut-être moyen de build around, là.
Ouais, ouais. Je la jouais dans mon seal de fantôme tantôt avant que le show commence, puis ça le fait. C'est un bon one drop, puis tu peux trader tes petites créatures. Là. Il y a bien des trucs, surtout dans le noir, blanc ou rouge, là, qui a des triggers quand la créature meurt ou que tu veux l'envoyer dans ton graveyard anyway. Il y a une créature aussi que tu peux recurse de ton graveyard là, pour 3, t'as ramené quand même, tu peux la rejouer. Là. Non, ça te permet de ramper assez rapidement.
Donc dans le fond,
un dead touch de juste tu capes.
Ouais, c'est un bon bloqueur.
Ouais. Trigger. T'as un dead touch. Bah, l'autre veut pas bloquer. L'autre veut pas nécessairement la bloquer.
L'autre veut pas la bloquer. Fait que tu peux faire son activité.
Ah oui.
L'habilité une couple de fois. C'est peut-être pas. C'est pas une bombe là. Tu sais, je la pique.
Selon vous, je suis sûr que.
En premier, nécessairement.
Ouais, c'est pas un first pick.
5 colorless, si tu fais des zombies 3-3, là, tu peux en faire plein après.
C'est, cool. C'est que tu sacrifies des créatures pour créer des Power Stones, puis après ça, tu payes 5 pour faire
les transformer.
Ouais, ça,
tes Power Stones, ils t'aident à payer ton 5.
Savez-vous à quelle vieille carte fait référence la deuxième habilité de sacrifier une créature pour faire un Power Stone?
Pas Ashnod's Altar. Le Ashnod's Transmogrant.
Non, c'est le Ashnod's Altar que tu sacrifies une créature pour faire 2 mana colorless.
Yep.
Puis t'avais
le rétro artefact.
Le rack aussi, là, c'est que dans le fond, on voit sur le artwork, c'est comme des genres de salles de torture un peu. Puis c'est ça, c'est que le pouvoir d'Ashnod, c'est que en secret, avec les. C'est que, tu sais, Mishra se fait influencer par les Phyrexiens dans ses rêves. Et Ashnod est comme son apprenti. Et c'est elle qui va tester, dans le fond, ses théories. Là. Fait que dans le fond, ils vont créer les premiers zombies. C'est pas de la magie, là, c'est des zombies comme artefacts. Fait que c'est dans le fond, c'est que tu prends des machines pour réanimer des corps humains un peu à la Frankenstein, là, mais version dominarien. En utilisant bien sûr des Power Stones pour powerer tout ça. Fait que ça c'est la gimmick de Ashnod et elle est un peu le. Ashnod est pas comme une. Voyez-la pas comme une prêtresse de la Phyrexie. Là. C'est vraiment comme l'apprenti d'un dude qui est en train d'être influencé par les Phyrexiens.
Hey. Moi je fais juste donner à Mishra. Il y a beaucoup de courage, là, genre comme ses couilles sont vraiment grosses, parce que moi je rentrais dans l'appartement d'une fille, puis c'est ça qu'il y a dans son sol, je l'inviterais pas à dîner.
Ouais, c'est vrai. Mais peut-être qu'ils se sont pas rencontrés dans sa cave, par contre.
Avant de comme aller en guerre totale, parce que là, à un moment donné, quand Mishra apprend que Urza est maintenant le boss de Yossia, ils vont faire un Peace Summit, hein, un sommet de la paix, Bitter Reunion. C'est la première réunion entre les deux frères. C'est que Mishra et sa garde personnelle vont se rendre à Krug pour commencer à voir s'il y a possibilité de négocier. Et bien sûr, en réalité, là, tous les deux, ce qu'ils veulent, en fait, c'est crosser l'autre pour y voler sa pierre. Fait que Bitter Reunion, c'est un enchantement qui coûte 2. Quelqu'un sur le battlefield, tu discartes une carte pour piger 2 cartes. Tu peux le sacrifier aussi pour donner haste à toutes tes créatures. On voit le artwork, on voit Urza, là, et remarquez que sur son bâton, son Might Stone est sur son bâton, hein, que je trouve que c'est un petit détail qui est quand même cool.
Ouais.
Son staff, là. Puis t'as Mishra aussi, là, puis ils sont encore jeunes et fringants. Hein. Puis tout ça ne va n'être qu'une tentative là, de guet-apens hein, pour voler la pierre de l'autre. Fait que ça va juste comme restarter la guerre à nouveau. Ça dit dans le Fever Text, le sommet de la paix a prouvé que le. C'est quoi un grudge? C'est un.
C'est la
hantise, non, la rancune, la rancune.
Ouais, c'est vrai de ça.
Le sommet de la paix a prouvé que la rancune entre Urza et Mishra pouvait seulement se finir dans le sang. Fait que c'est vraiment là que la guerre va se terminer, va prendre une tournure guerre totale. Et qui va vouloir pousser ça? Ben, c'est les Phyrexiens qui commencent à entourer Mishra. Au début, sont une présence très discrète. Hein, les disciples de Gix. Parce que le démon avec qui Mishra fait affaire, c'est Gix, c'est un Yagma Demon. Donc, disciple de Gix, un 4-4 uncommon pour 6. Quand il rentre sur Battlefield, tu cherches ta librairie pour 3 artefacts et tu les mets dans ton graveyard. C'est pour préparer justement, tu sais, soit en faire des zombies ou Unearth. Les machines n'ont aucune peur, ni tristesse, ni faim. Et non seulement une seule utilité glorieuse et pure, ben c'est ça, c'est de éventuellement c'est que tout devient des machines.
Ah oui.
Fait que c'est un peu le contexte vers lequel on se dirige.
Aïe, merci pour ça, Jason. On s'en va vers la carte de la semaine, présentation de l'adversaire 4303 Sainte-Catherine Est. On va écouter un petit peu de Beat à Bone. J'ai assez hâte de voir c'est quoi la carte de la semaine. Oui, c'est quoi la carte de la semaine? C'est qui l'a choisi?
C'est moi qui l'ai choisi. Elle pas comme au bout de ce qu'on est rendu dans l'histoire, là. C'est plus comme vers la fin.
Jump the shark.
Le portal vers la Phyrexie. On a souvent parlé des fameux portals de la Phyrexie dans notre show. C'est un concept que j'aime beaucoup comme carte, là. Les fameux portals, c'est tout le temps des artefacts qui coûtent super cher. Dans le cas ici, c'est 9. Quand il rentre sur le battlefield, tes adversaires sacrifient 3 créatures et au beginning de ton upkeep, tu choisis une créature dans n'importe quel graveyard et tu la mets sous ton contrôle. Elle gagne le creature type Phyrexien. Écoute, cette carte-là, je l'ai pognée dans mon Two-Headed Giant là, et c'était ridicule là, parce que ça dit que chaque adversaire sacrifie 3 créatures. On jouait contre 2 adversaires. Je stabilisais. Là. Mon deck était fait, fallait que je rampais, je mettais des Power Stone pour me rendre à 9 mana. Et quand mon portal de Phyrexie sortait, c'est pas vraiment grave qu'est-ce que les autres avaient encore sur la table parce que ils devaient sacrifier leurs 3 moins fortes. Souvent, c'était tout ce qui leur restait déjà rendu là. Et après ça, ben, ce qu'ils avaient sacrifié, j'allais le chercher. Je pense que cette carte-là va avoir beaucoup de jeux en Commander. C'est vraiment une bombe, là. C'est vraiment excellent. Si t'es dans un deck qui est capable de ramper, là, dans du multiplayer, je pense que c'est excellent aussi. Puis, ça fait beaucoup penser à God Pharaoh Gift, qui était semblable. Sauf que c'était juste son graveyard, le God Pharaoh Gift. Là, c'est tous les graveyards. J'ai vraiment hâte de bâtir autour de cette carte-là. Je suis vraiment content d'en avoir pogné. Puis, je sais pas ce que vous en pensez, là, mais.
Fort en tabarnak.
C'est vraiment fort. Puis je me rappelle, le monde était comme découragé quand je la sortais. Là.
Ah oui, c'est pas juste de péter 6 monstres, là, tous les monstres des autres. C'est aussi que tu peux ramener de la viande pour après ça phyrexianiser tout.
C'était à eux autres de gagner avant.
Ouais, ah, vu de même.
Puis écoute, il n'y a pas grand feeling à Magic qui est plus baveux que dire à quelqu'un « Tu peux-tu me prêter ton graveyard, s'il te plaît? Faut que je regarde dedans. »
Ça,
j'adorais ça. Puis je trouvais un petit peu plus baveux à Magic en temps normal. Là. Je me faisais un plaisir de le tour après. Je savais ce qu'il y avait dans son graveyard, mais tu sais, comme je faisais exprès, là, je dis « Excuse, est-ce que je peux revoir ton graveyard à nouveau, s'il te plaît? Faut que je regarde à nouveau.
» Ouais, moi, c'est ce que je trouve un peu traître, parce que ça va arriver des fois que tu arrives, puis t'ouvres une bombe dans ton dernier pack de draft qui est pas dans tes couleurs que t'as drafté tout le restant du draft. Celui-là, c'est ta pige, ta joue. Là. C'est immanquable dans ce set-là, Brothers War. Tu piges Portal to Phyrexia, t'as la mets dans ton deck. Je vois pas une situation où t'a jouerais pas.
Non. Ben, une situation que t'as pas tant de land que ça dans ton deck.
Quand même neuf, là.
Ouais, mettons c'est le troisième pack puis que je suis en train de faire un deck aggro rouge blanc peut-être ouais. Que je serais comme ouais ça fit pas là.
Mais tu vas l'enlever du draft.
Mais tu me la donneras sure. Pour moi je vais l'utiliser.
Si on draft en pod, c'est bon.
c'est vraiment une carte de contrôle. Là. C'est un finisher.
Ça sent en ligne pour tuer Magic, on s'entend.
Bon.
Fait que ben, c'est pas mal ça pour l'histoire. On va pouvoir retourner en apprendre. Peut-être que même la carte de la semaine va être impliquée dans ce qui s'en vient. On retourne dans le lore de l'autre côté du Beatable. On s'en va jaser de ça.
Mais là, c'est vraiment la guerre entre Yosia et les Falaji. Puis t'as toute une série de cartes qui sont des guerres de tranchées. Puis tu vois tout de suite sur les artworks, là. T'as la carte comme le signpost dans le bleu et le blanc, le Yoshin Tactician. Deux colorless, un bleu et un blanc pour un 3-4 que tous tes soldats gagnent +1/+1. Il y a beaucoup de soldats dans le set. Fait que ça, c'est l'archétype bleu-blanc. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas fait ça. Là. D'habitude, c'était comme du flying. Il y a du flying là-dedans aussi, qui sont aussi des soldats. Fait que dans le fond, c'est un deck d'aggro, mais large, plutôt que... tu sais, au lieu d'être Voltron, que tu mets des enchantements par-dessus pour les grossir. Là c'est vraiment, tu veux jouer des tokens. Là, t'sais. Puis okay. Ça dit dans le Favor Text, le temps de l'Alliance de Fer, de rappeler à l'armée du Kadir à quel point les marches de l'épée sont inhospitalières. Tu vois, ils font plein de name-dropping qui est vraiment cool, puis ce sont des mots que tu retrouves sur la carte. Là. L'Alliance de Fer, c'est la coalition que Urza fait avec les royaumes qui sont autour du désert. Le but, c'est de contenir Mishra dans le désert pour pas qu'il sorte. Les marches des épées, là, j'imagine c'est une place à la carte où ces combats-là ont lieu. On voit, tu sais, comme le Brushland, là, qui est le Painland blanc et vert, on voit les fameuses tranchées que je parle. Là, c'est une guerre de tranchées. Tu vois, il y a des genres de gros blocs en pierre, j'imagine, qui sont faits pour stopper des juggernauts et des affaires comme ça. Même les Falaji aussi, là, tu vois, le Conscript Infantry, là, c'est un soldat 3-1, quelqu'un qui meurt, tu fais un soldat 1-1. On voit, ils sont en train de réparer des genres de machines qui vont les accompagner sur le champ de bataille. Et la carte là, In the Trench, qui est le Crusade du set, on voit des soldats Falaji. Tous les spots, là, ils ont une genre de grosse étoile rouge sur leur bouclier. Ça, c'est un enchantement qui donne plus un à toutes les créatures. Tu payes 6 pour exiler un non-land permanent tant que In the Trench est en jeu. Fait que tu sais, c'est un genre de Crusade mélangé avec un Banishing Light. Hein. Lis-nous le favorite text sur celle-là, Tommy. C'est vraiment cool.
The battlefield became so pockmarked with craters and trenches that casualties were regularly attributed to fell in a hole. Ben oui, hein.
Fait qu'il y avait tellement de tranchées puis de trous puis d'explosions que il y a beaucoup de gens qui crevaient juste en tombant dans des trous. Là. C'est comme une blague qu'ils font dans le flavor text. Tu sais, des cartes over the top, ça a un gros feeling un peu Starship Trooper, parce qu'on voit qu'ils sont en train de courir dans une tranchée puis ça prête à grimper sur des échelles. Ça, c'est un sorcery rare que chaque... J'ai eu de la misère à la comprendre, cette carte-là. C'est chaque joueur révèle un nombre de cartes du top de leur librairie égal au nombre de permanents non-land qu'ils contrôlent. Et tu mets tous les permanents que tu as révélés comme ça sur le battlefield. Reste au graveyard. Okay, ouais.
C'est une espèce de mass chaos warp. Là. C'est vraiment très étrange, effectivement, comme carte.
C'est très étrange, mais ça a l'air cool.
Écoute, ben, c'est vrai que ça a l'air cool, la gang. Tu vas t'en ramasser en esti des permanents, là.
Si t'as beaucoup de tokens, là, ça peut être payant.
T'en mets autant que t'en avais. Là.
Ouais, mais t'en révèles autant que t'en avais.
Oui, oui. Fait que tout le monde, c'est ça. C'est comme un gros Chaos Warp. Là,
le problème, c'est que c'est tout le monde autour de la table fait ça.
C'est ça.
Ouais. Fait que ça peut te péter dans la face si t'es en behind.
Si toi, t'avais plein de petites créatures dont tu te fous, puis les autres qui ont des leurs grosses bombes, ben t'es remplace. Ouais. Ça a la même utilité qu'un Chaos Warp, mais ça coûte 7 puis que c'est pour tout.
Un genre de wheel effect pour permanent.
C'est un peu étrange.
Puis on voit grâce à les fouilles des trans là, puis leur artificier, ils font des gros canons à Unleash Shell. On voit une espèce de gros canon araignée là, qui tire. Ça, c'est le 5 dégâts du set. Là. Tu payes 5 pour faire 5 dégâts à une créature, un Planeswalker, puis 2 dégâts à son contrôleur. Le pouvoir destructif du nouveau canon valait beaucoup plus que son Blast Radius imprévisible. Fait que vous voyez, c'est un genre de mélange de médiéval puis de Première Guerre mondiale, puis je trouve qu'il y a un aspect un peu très futuristique. Puis ce que Scaf Elias mentionnait dans son vieux set d'Antiquities, c'est que c'est une course à l'armement. Fait qu'au début, c'est des artefacts qui aident un soldat, tu sais, comme des lances, des boucliers. Mais qu'au fur et à mesure la guerre avance, là, éventuellement, c'est des machines qui bougent tout seul. Donc, t'as vraiment comme une évolution. Tu vois, combat de courrier, là, on commence à avoir des petits robots. Là. Puis, faire la différence entre les robots d'Urza et les robots de Mishra est très simple. Les robots de Mishra ont tout le temps comme une forme un peu comme un insecte.
Ouais, c'est spiky, puis l'autre, il est plus
beaucoup de bouts pointus. Et comme tu vois que les parties de la machine, ils glow rouge. Tandis que les machines d'Urza, ils glow bleu. Puis, c'est tout poli et rond. Un peu comme une armure. Fait qu'ils sont très faciles à spotter, dans le fond, quelle machine est à Urza, quelle machine est à Mishra. Comme tu vois sur le dissident Yoshien, ça c'est le 5 poses dans le vert et blanc pour Andraf. C'est un 1-1 qu'à chaque fois qu'un artefact rentre sur Battlefield, tu mets un +1/+1 counter sur une créature de ton choix. On voit la machine encore là, c'est ce que je décrivais pour les machines de Urza. J'adore la carte, le Heartwork de récommission, là, et on voit qu'il essaie de tu sais, comme un genre de ce qui semble être un genre de gros wagon robotique là, qui est tombé dans une tranchée, puis là, il essaie de le ramener avec des cordes. Ça, si tu ramènes un artefact ou une créature de ton graveyard sur le battlefield, put your back into it, if we don't lay claim to it, the phalagy will. Fait qu'on voit, il y a beaucoup de scavenging. Tu sais, il vole les machines des autres et il les recycle.
Ouais, ouais, ouais.
C'est vraiment nice. Tu vois, Hero of Dune, ça, c'est le signpost dans le blanc et noir. Encore là, c'est les phalagy du désert. Puis tu vois, elle a beaucoup de robots en arrière d'elle avec des épaules pointues. C'est un 3-2. Quand elle rentre sur Battlefield, tu retournes les artefacts. Ou une créature qui a un mana cost de 3 ou moins de ton graveyard sur le battlefield, et toutes les créatures qui ont un casting cost de 3 ou moins ont +1 plus 0. Fait que ça, c'est dans le noir et blanc, c'est l'archétype si tu ramènes des affaires de ton graveyard.
Même ça.
Ouais. Et c'est ça, tu sais, t'as des gros juggernauts, ce que j'appelle des juggernauts, je sais pas comment les appeler autrement, c'est comme des robots, c'est comme un mélange entre un bulldozer puis un robot, là, parce qu'on bat sur pattes, puis il avance à quatre pattes, puis il défonce tout. Le Goring Warplow, là, ça vaut la peine, là, parce que c'est un prototype, un dead touch pour 2, mais si t'as rampé jusqu'à 6 mana, c'est un 5-4 dead touch, puis c'est une commune, fait que tu peux ramasser plein. Ça m'a fait chier pas mal en fin de semaine, ces cartes-là. Moi, j'en avais pas.
Ah ouais, hein?
Ah, ben, tu te ramasses avec un low cost dead touch, puis les chances sont que quelqu'un va être capable de le ramener avec Unearth ou d'une façon avec son full casting cost plus tard dans le game.
Il le sacrifie en tant que 1-1 dead touch au début, puis après ça, il le ramène du graveyard en 5-4.
Ah oui. Ah oui.
C'est quand même cool.
C'est fabriqué pour détruire des murs et des volontés en égale mesure.
Et bien sûr, tu sais, qui dit Antiquities dit Ornithoptère. Fait qu'il fallait qu'il mettait beaucoup d'Ornithoptères dans le set. T'as toute une série de cartes qui sont, dans le fond, c'est la réponse de la gang à Urza à la guerre des tranchées. Ça veut dire, hey, on va se battre dans les airs. Fait que l'archétype blanc et bleu des soldats a beaucoup de flying. Fait que pour représenter ce flying-là, c'est des soldats sur des Ornithoptères. Puis t'as comme les ailes de l'aéronaute pour 2 colorless, un équipement qui donne +1 puis flying. Les volontaires questionnent rarement pourquoi les bataillons de aériens sont tout le temps en train de recruter.
Il y a une rotation.
C'est un Bush paratrooper, là, tu vois, ils sautent c'est des gros ornithoptères dans le ciel, puis il y a comme plein de soldats qui sautent, ils ont des ailes dans le dos. Ça, c'est 1-2 Flying Flash. Pis tu peux payer 5 pour donner +1 à toutes tes créatures. Fait que t'as toute une série de cartes comme ça là, de combat aérien. Là. Aéronaut Cavalry, c'est la même chose. C'est un 3-4 pour 5 flying. C'est un soldat à marmure sur un ornithoptère. Ils se sont vraiment gâtés avec cette gimmick-là. Là. Dans le bleu. Là. Puis éventuellement, c'est que t'as le fils d'Urza va commander. Le fils d'Urza et de Kaya Bin Krud, là. C'est Arbin, le Vanguard Aviator, qui est un 3-2 pour un blanc et un bleu. Human Soldier, Flying. Chaque fois que tu attaques avec 5 créatures, 5 soldats ou plus, les créatures que tu contrôles ont plus 1 et Flying until end of turn. Fait que là, ça le place. Là, c'est comme le genre de général des armées volantes. Fait qu'ils vont comme vraiment donner une volée au Falagi, le fait qu'ils volent, parce que on voit après ça, tu sais, le Perimeter Patrol, qui est des Falagi, une carte de Falagi vert. Ça dit dans le flavor text, les Falagi ont appris qu'ils devaient que les montagnes de Kerridge avaient beaucoup de caves et beaucoup de grottes et de vallées pour se cacher, là, que tu voyais pas bien des airs. Fait qu'ils vont prendre un peu l'avantage là-dessus, mais c'est là que Mishra, en fait, va faire comme sa contre-attaque surprise. Il va notamment le Mishra Juggernaut qui... le Mishra Juggernaut, là, ça, c'est un 5-3 pour 5 Trample qui attaque à chaque combat, il est obligé, mais tu peux le Honor pour 6. Fait qu'il y a comme des gros Juggernauts qui vont passer sous le sol et qui vont sortir en plein milieu de la capitale de
l'Union. Ben là...
Pendant que les soldats de Urza étaient sortis pour faire la guerre, fait qu'il va comme attaquer par en dessous la ville de Yosia là, par surprise. Et notamment, c'est la carte de Fall of Krug où ce qu'on voit le gros Dragon Engine de Mishra qui est en train d'écraser toute la ville de Yosia. Ça, c'est un sorcery. Tu choisis un permanent, tu détruis un land qui contrôle. Non, tu choisis un adversaire, tu détruis un land qui contrôle et ça fait 3 de dégâts à ce joueur-là et 1 dégât à chaque créature. Je trouve pas que c'est vraiment fort comme carte pour le prix que ça a, là. Je sais pas pour vous, là.
Ça coûte cher, c'est une carte de sideboard, là.
C'est ça. Mais... l'affaire, je voulais juste dire, c'est le Fall of Krug. Dans l'histoire écrite qu'ils ont publié pour Brothers War, je pense que c'est la meilleure qu'ils ont écrit. Le reste...
Ouais,
c'est mais celle-là, je trouve qu'il avait bien réussi.
Ouais, cool. C'est un des gros moments dans le storyline. Tu vois, ça dit dans le favorite text en représailles à l'embuscade qu'il avait fait pendant le sommet de la paix, Mishra a détruit la capitale de Yosia. C'était mentionné aussi là, dans le fameux Dragon Engine dans Antiquity. T'avais à peu près sensiblement la même chose dans le flavor text. Ceux qui pensaient que Krug ne tomberait jamais aux forces de Mishra avaient sous-estimé la puissance de ces machines de guerre. Puis dans le vieux set de Dominaria, c'était le...
Traxos,
ben c'est le Dragon Engine de Mishra qui va détruire là, la ville de Krug. C'est quand même nice, là. T'as des belles. Tu sais, ils ont gardé une même histoire, puis ils nous la réimaginent d'une nouvelle façon. Fait que ça va vraiment piss off Urza, puis là, il va vraiment se mettre à faire, tu sais, comme autre chose. Comme voilà, tu sais, comme pour reprendre le contrôle sur la guerre, là. C'est là qu'ils vont se mettre comme à faire des machines. Notamment, tu sais, comme Yosian Frontliner, qui est un 1-1. Artefact Soldier qui quelque attaque qui donne plus un autre créature, puis il y a Unearth. Mais ça, c'est un remake du fameux Yosian Soldier de Antiquities, qui était le 1-4 Vigilance. Là. Puis le Clay Revenant, qui est le revenant en argile. Ça, il rentre sur le jeu tapé. Tu peux payer 2 colorless, un noir pour le ramener du graveyard dans ta main. Ça dit que c'est construit par Thanos avec une durabilité qui va être plus longue que la guerre elle-même. Mais ça, c'est en référence au Clay Statue d'Antiquities.
Ah oui.
Fait qu'ils se mettent comme à avoir de moins en moins. Parce que les humains meurent hein, pendant la guerre, fait qu'ils remplacent par des machines. Et du bord de Mishra, ça va être notamment à cause de la gang de Phyrexiens là, qui vont de plus en plus s'implanter. C'est là qu'ils vont se mettre à faire notamment les fameux transmogrants. Parce que tu vois, t'as plein de cartes là, qui font référence au transmogrant. C'est la technologie qu'Ashnod développe de transformer des cadavres en machines. Transmogrant Altar, 3 colorless. Tu peux payer sacrifier une créature pour faire 3 mana colorless. Ou sacrifier payer 2, sacrifier une créature et créer un zombie artefact. Et ça fait référence à la carte Ashna Transmogrian, encore là, d'Antiquities, qui rendait une créature en artefact. Mais ça, c'est la corruption là, des Phyrexiens qui se rend dans les rangs de Mishra sans trop qu'ils s'en rendent compte. Là, sont comme, c'est pas des agents de la Phyrexie, c'est juste qu'ils sont comme corrompus.
Ah oui.
Ils se font avoir, dans le fond. Là. Puis ce que les Phyrexiens veulent, c'est que éventuellement, Mishra ait réussi à avoir les deux pierres pour pouvoir ouvrir le portail des Phyrexiens que je parlais dans la carte de la semaine. Donc, tu sais, t'as plein de cartes là, qui sont des transmogrants, comme le Razor Lash Transmogrant 3-1, il peut pas bloquer, mais tu peux le ramener du graveyard sur Battlefield en payant 6. C'est tout le temps ça, la gamique. Là. C'est les zombies du set qui sont des machines.
Le flavor text sur le Transmogrants Crown était pas pire. Là.
Ah oui, il est pas pire. Ça, c'est un équipement que si une créature meurt, tu piges une carte. C'est un genre de Skullclamp vraiment moins fort. Lis-nous le flavor text, Tommy.
Allergy soldiers aided seeing loved ones' faces among the Transmogrants. Ashnod devised the solution. Ben oui, le monde n'aimait pas ça, voir la face de leurs êtres aimés parmi les zombies. Transmogrants. Donc, on a trouvé une solution.
Okay, on va leur mettre un casque.
Les Transmogrants, ils ont des genres de gros casques avec des
arcs. On sait plus. J'ai un masque. Là.
Ouais. Donc, c'est pas mal ça. C'est la fin de je vais vous laisser sur la carte Corrupt, qui est dans le fond, là, c'est que le Mishra commence à être un petit peu trop à l'aise avec ça. Il commence à se rendre compte. Là, il y a les disciples de Gix tout autour de lui. Là. Tu vois le Gixian Skull Flayer, là, qui est une 2-3 commune, un Phyrexian assassin à ton upkeep. Si tu as 3 créatures au plus dans ton graveyard, tu mets un plus un counter dessus. Ça vient gros vite, hein, by the way. Là. Si ton deck est bâti autour, là, parce que ça trigger à chaque upkeep.
Yep.
Ça dit dans le flavor text, à chaque calling, c'est quand tu tues plein de monde, ça rapproche le monde de plus en plus vers la complétion, hein, qui est le complete, là, le fameux objectif des Phyrexiens, je le rappelle, c'est que tout devient une machine parfaite. Puis la carte Corrupt, ce que j'aime de cette carte-là, ça c'est le Drain Life du set. 5 colorless, un noir, un sorcery. Ça fait un nombre de dégâts égal au nombre de swamp que t'as et tu gagnes un nombre de vie égal au nombre de dégâts que t'as fait. On voit Mishra qui est assis sur une espèce de trône entouré de disciples de geeks autour de lui. Lis-nous le flavor text, Tommy.
Most wise, most thoughtful, most powerful Kadir, said the Gixian, we offer whatever help we may give in your illustrious name. Ben oui, hein. Toi qui es le plus sage, le plus intelligent, le plus puissant des Kadir, a dit Gixian, nous offrons toute l'aide que nous pouvons vous donner en votre nom illustre.
Fait que Mishra sait pas trop c'est quoi les Phyrexiens, mais il se rend compte que ça y amène la puissance, hein, c'est ça qui développe ses armées et ça va l'aider éventuellement. Tout ce qu'il veut, c'est pogner le Might Stone de Urza. Oh. Il est comme vraiment comme concentré là-dessus. Puis ce que j'aime cette carte-là, c'est que dans Urza Saga, t'avais la même carte Corrupt, hein, c'est un reprint.
Oh, c'est un reprint, ouais.
Mais avec Urza dessus, qui se faisait corrompre par les Phyrexiens, on en avait parlé dans notre épisode 189, je pense. J'aime bien, tu sais, qu'ils ont comme complété le cycle. T'as la carte Corrupt avec Mishra, puis t'as la carte Corrupt avec Urza dessus. Et quand on va se revoir la semaine prochaine, quand je vais continuer le lore, là, c'est là qu'on va voir comment que la guerre elle prend vraiment une tournure bad. Où ce que là, tu sais, il n'y a plus de retenue, là, puis pour stopper les ambitions de Mishra, Urza va se mettre à faire notamment ces fameux Urzatron et de gigantesques robots, des gros colossus, et ça va se terminer dans la bataille de Argoth et le Silex qui va exploser.
L'escalade de la violence, mais merci beaucoup, Jason.
Oui.
C'est très, très intéressant. Merci beaucoup, Emmanuel, d'être passé nous voir.
C'est un plaisir.
Bonne chance dans tes prochains drafts. Et merci, Joe. On peut rappeler peut-être le jeu duquel est tiré la trame sonore du show de ce soir.
Oh, fuck, faut que je m'en souvienne, là.
Ah, ben, t'es obligé.
On l'a nommé une fois, on l'a oublié. C'est une affaire qui ressemble
à... C'est Energy Breaker.
Energy Breaker. De voilà, du même designer que Trigon. Hein, ça.
Là, character design, artwork.
Vache de Stampede. Ils ont fini l'histoire dernièrement. Ben, dernièrement, genre en 2014, avec un film. C'est un des seuls animés que j'ai écouté d'un bout à l'autre. D'habitude, je choke tout le temps parce que C'est ça. Next time on Dragon Ball Z, on va avoir Goku qui va charger une boule de feu pendant une demi-heure. Là, ce genre
moi, mes deux questions que je demande quand quelqu'un me suggère un dessin animé japonais, c'est est-ce que le protagoniste est un jeune garçon qui pleure dans une école secondaire? Puis il y a combien d'épisodes?
Ouais, c'est deux bonnes questions. J'avais commencé Attack on Titan, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est vraiment excellent, faut que t'écoutes ça. Puis là, j'ai écouté trois épisodes, puis là, c'était un adolescent qui avait comme une puissance en lui pour tout régler. Fait que je me semble que je l'ai déjà vu, tu sais, puis j'ai arrêté d'écouter ça. Là,
ça m'a écœuré en écoutant Attack on Titan.
Ouais, ben voilà. Donc,
il est temps qu'on finisse le micro de Jason.
Jason a comme choqué. On vous remercie. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à Martin Godette de podcast.com pour le montage. Merci à Bond pour le beat, à l'adversaire pour je sais même pas. Hein. L'adversaire, je pense qu'il donne de nos tokens. Tiens. Ou, en tout cas, on les aime bien gros. Peut-être que c'est quoi qui manque? Oui, mon nom, c'est Tommy Godette. On vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascrou possible.
De la famille H2O Web Media.